culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour chère auditrice, chers auditeurs, sois le bienvenu. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons louer Dieu. Aujourd'hui, à l'antenne, nous comptons sur Amandine.
Bonjour.
Guillaume.
Salut.
Et Pierrick.
Bonjour.
Merci à vous d'être là. Notre temps de partage est rempli de belles choses, n'est-ce pas Amandine?
Oui, nous allons parler d'un thème sur lequel j'avais hâte d'échanger, donc je me réjouis.
Ah, et nous avons sélectionné quelques musiques motivantes. Il y aura aussi des témoignages et beaucoup de discussions. C'est bien ça, Brian ?
Exactement. Et d'ailleurs, on va commencer une série de 3 cultes sur le thème de Noël.
Ah, magnifique. Et pour ces cultes, nous avons Pierrick avec nous. Pierrick est pasteur. Et tu es pasteur dans quelle église, Pierrick ?
Alors justement, pas dans une église. Je m'occupe de...
Bah, c'est étonnant, ça.
Oui, je m'occupe du département jeunesse. Pour la Suisse romande et le Tessin, pour notre fédération, donc tout ce qui est activité, camp, formation, ressources, etc. pour les 4 à 30 ans.
Bah, magnifique. Et tu es mariée, il me semble.
Oui, je suis mariée avec Sabrina, une professeure de piano. On a une petite fille, Eliora, qui a 3 ans.
Parfait. Et elles vont bien ?
Très bien, merci.
Très bien. Et aujourd'hui, Pierrick, tu vas nous parler de quel thème ?
Alors, moi, je vous propose de pouvoir un petit peu revivre ce temps de Noël et de le vivre au travers de personnes qui ont vécu cette naissance de Jésus. Et aujourd'hui, on cheminera aux côtés de Marie et Joseph.
On se réjouit. Mmh. Chers auditeurs, reste avec nous pendant cette heure de culte. Que Dieu soit parmi nous et qu'il nous apporte tout ce dont nous avons besoin.
Et tout de suite, avant de commencer, j'aimerais te proposer d'écouter le chant qu'on a sélectionné avec l'équipe pour cette série. Donc c'est le chant « Racontez-moi » de Sweet Witness.
Choix inoubliable.
aîné. C'est magnifique. Nous sommes en train de vivre un moment chrétien. Alors ici, nous parlons de Dieu, de sujets positifs. Nous partageons des réflexions qui élèvent, des réflexions chrétiennes. Mais tous les autres jours de la semaine, moi, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Alors, je me tourne vers toi, Amandine. Comment vis-tu Dieu dans ta semaine?
Alors, un exemple, toutes les deux semaines, nous avons pris l'habitude avec mon mari Brian de se retrouver le mercredi soir dans notre salon avec des voisins autour d'un thé pour échanger sur nos vies, étudier la Bible ensemble et pour prier. On appelle ça notre groupe de maison. C'est quelque chose que nous rêvions, Brian et moi, de vivre au sein de notre petit immeuble de 9 apparts. Et on rêvait de le vivre avec nos voisins qui ne sont pas forcément chrétiens. Et donc on a beaucoup, beaucoup prié pour ça. Et souvent on est trois. Donc avec notre voisine catholique, Sandrine, qui s'est jointe à nous. Et ça en soi, c'est déjà notre petit miracle. Et je pense qu'un jour, on vous le racontera dans notre chronique « Dieu agit ». Puis parfois, on est rejoint par un autre voisin, un jeune homme trentenaire. On a aussi des fois accueilli un autre couple de voisins. Et là, cette semaine, on devrait accueillir un nouveau couple de voisins qui a envie de se joindre à nous.
Ah, mais c'est magnifique, ouais, vous êtes déjà beaucoup.
C'est une grande aventure. Bref, un mercredi soir, une fois n'est pas coutume, nous n'étions que Sandrine et moi. Je sais, de par sa foi, que Marie est une femme très importante pour elle, elle l'aime beaucoup. Et elle et moi n'avons pas la même vision de qui est Marie et de quel rôle nous lui donnons dans notre foi. Et je me suis rendu compte d'ailleurs qu'à vouloir ne pas lui donner le rôle que d'autres ont décidé de lui attribuer, que je l'ai carrément un peu mise de côté en fait, Marie. Et ce soir-là, j'ai eu envie de sortir la Bible et de proposer à Sandrine d'étudier ensemble la prière de Marie que l'on trouve dans Luc 1, 46 à 55. C'est la prière qu'elle adresse à Dieu quand elle apprend qu'elle va enfanter de Jésus. Et l'objectif était pour moi de se concentrer pour une fois sur les choses communes que nous pouvions apprendre de Marie. Donc on a lu le texte ensemble, on s'est posé des questions sur ce texte, nous nous sommes émerveillés de la foi incroyable de Marie en Dieu, sa manière de le louer, de fixer ses yeux sur lui, de lui faire confiance, sa manière de vouloir le servir, sa reconnaissance. Bref, ce fut un échange particulièrement fort, et même si nous ne partageons toujours pas la même vision de Marie, cette étude de ce texte nous a permis de nous écouter, de nous rassembler, de nous faire grandir, échanger sur nos propres vies. Car quand on étudie un texte ensemble, après, ben, on échange sur comment il fait écho à notre vie, comment cela nous interpelle aujourd'hui, comment on peut le faire nôtre, comment on peut mettre en pratique dans notre quotidien ce qu'on en a ressorti. Donc voilà, ces temps d'échange en groupe de maison sont précieux. C'est un temps où l'on se ressource, où l'on peut s'encourager. On prend aussi du temps pour prier les uns pour les autres, alors sous des formes variées, par exemple. Moi, je prie facilement à haute voix quand on est ensemble, alors que Sandrine, elle va plus prier de son côté, puis nous envoyer des petits textos pour dire « Ouais, j'ai prié pour toi ». Voilà, un temps que je vis dans ma semaine avec Dieu, puis avec les autres. Et si ça te donne envie, tu peux le mettre en prière à Dieu, lui dire que t'aimerais pouvoir échanger autour de la Bible, chez toi ou chez quelqu'un d'autre, ou en visioconférence si tu es confiné chez toi comme nous en ce moment. D'ailleurs, il me semble, Mildred, que tu vas bientôt partager quelque chose d'assez similaire que tu vis également en ce moment par Zoom.
Total, tout à fait, ouais. Tout bientôt.
Donc je me réjouis aussi d'entendre ton témoignage là-dessus. Et donc voilà, si ça te donne envie, tu peux prier à Dieu et puis qu'il te dirige vers des personnes ou qu'il mette sur ta route des personnes qui, comme toi, seraient intéressées à vivre cela. Tu verras qu'avec de la patience, Dieu guide et puis pourvoit, vraiment. J'aimerais également te partager la promesse que j'ai mise en fond d'écran sur notre ordinateur familial. Elle dit ceci, elle se trouve dans Philippiens 2, verset 13. Car Dieu agit parmi vous. Il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. C'est une promesse que j'ai voulu avoir sous les yeux souvent pour me rappeler que Dieu agit dans ma vie, qu'il m'équipe et m'accompagne pour être et faire ce qu'il m'invite à être et à vivre.
C'est vrai que j'aime ce verset sur notre fond d'écran et me souvenir de cette belle promesse est vraiment très encourageante pour moi. Et tu parlais de Marie à l'instant, et donc c'est une femme qui est la mère de Jésus. Et quand on s'attarde un peu, c'est juste incroyable d'observer que ce Dieu si immense, si grand, a choisi d'être en étroite collaboration avec l'être humain pour mener à bien son projet, c'est-à-dire nous sauver. Et la chanson qui va suivre s'intitule « Marie, savais-tu ?». Elle est interprétée par la chanteuse Nawal. Alors, cher auditeur, je t'invite à écouter cette chanson et à te plonger dans ses paroles. Et laisse-toi émerveiller par ce que Dieu a fait pour toi. Les deux chants qui vont suivre sont de Sweet Witness. Elle parle de la bonne nouvelle. Le premier parle de la naissance de Jésus dans la crèche. Et le deuxième proclame haut et fort cette bonne nouvelle. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et son règne de paix s'étendra sur le monde entier. Il sera le prince de la paix, une lumière a resplendi. Mais je vous laisse écouter la suite.
Dans la crèche à l'abri, sans abri, près de sa maman. Tous les anges veillent sur lui comme sur un trésor. Demain, prendra soin de lui et toi rêve encore.
Dieu parle aux hommes, Dieu parle aux femmes, Dieu parle à l'humanité. Il s'adapte à chaque personne et à sa réalité. Il y a quelques jours, j'ai rencontré Sylvie, une amie, et elle m'a raconté un bout de son histoire et de comment elle a rencontré Dieu. Vous voulez entendre son témoignage?
Carrément.
Alors, allons-y.
Pour commencer, je souhaite dire à nos auditeurs que Dieu ne m'est pas apparu comme à Marie d'une façon spectaculaire au travers d'un ange. Mais par contre, oui, Dieu s'est révélé à moi d'une autre manière dans mes circonstances de vie à une époque à laquelle on vit et qui est différente de celle de Marie. Parfois, on entend dire « il y a un avant, il y a un après ». Eh bien, Mildred, c'est exactement ce que j'ai vécu avec Dieu. Il y a eu ma vie avant que je le connaisse, il y a eu ma rencontre avec lui et il y a ma vie après, maintenant, avec lui. Donc ma vie avant, je viens d'une famille du canton de Neuchâtel en Suisse et on ne connaissait pas Dieu. Enfin, pour nous, Dieu, il existait, mais au ciel, et c'était bien comme ça. On avait une bonne entente entre nous et surtout avec mes deux sœurs. Et quand j'étais petite, j'avais deux tantes qui connaissaient déjà Dieu et qui nous parlaient de lui. Mais voilà, ça ne nous parlait pas plus autrement. Et puis, par contre, quand j'étais petite, je faisais tout le temps cette prière le soir. « Seigneur, sauve ma famille, mes deux parents, mes deux petites sœurs et moi. Amen. » C'était un petit peu traditionnel, quoi. Et puis après, j'ai grandi. Adolescente, je suis allée à l'église quelques fois pour des mariages, des baptêmes. Et c'est vrai que ça me fascinait toujours d'entrer dans ces lieux où il y a un respect. Mais n'empêche que ça ne m'a pas empêchée d'avoir une vie mouvementée en allant en discothèque, en fumant des cigarettes, en buvant de l'alcool, comme je pense beaucoup de jeunes. Mais voilà, le temps a passé, j'ai fait un apprentissage d'employé de commerce et un jour, un de mes chefs m'a donné un traité avec lequel je pouvais commander la cassette du film Jésus. Donc j'ai fait ça et je l'ai bien reçu, mais je ne l'ai pas regardé, je l'ai rangé, tout emballé. Et puis après, à l'âge adulte, je vivais avec un homme de très bonne situation, un avocat. C'était rassurant car je manquais de rien, tu penses bien. J'avais tout pour être heureuse, mais en fait, je ne l'étais pas. Vu d'extérieur, c'était un homme sympa, très chic, mais en fait, c'était un manipulateur. Et donc, j'ai vécu des moments difficiles où j'ai commencé à perdre confiance en moi. Et puis à ce moment-là, un vide s'est installé en moi et j'avais besoin de combler ce manque. Donc j'ai essayé de plusieurs choses que la société peut nous offrir. J'ai fait quelques séances de réflexologie qui m'ont fait du bien, mais voilà, sans plus. Du Reiki aussi, un peu plus poussé dans ces pratiques orientales. J'ai même vu un énergéticien qui a essayé de me restabiliser les énergies. Bon, ça ne m'a pas plus aidé que ça. Et j'ai fait beaucoup de sport. Oui, alors beaucoup, 1 à 2 heures par jour. Et automatiquement, j'ai commencé à perdre du poids. J'ai contrôlé ma nourriture et là, il y a eu un changement physique qui s'est fait et mon entourage commençait à devenir un petit peu inquiet. Et puis, je suis même allée jusqu'à consulter le pendule pour connaître mon avenir, tellement j'étais finalement désespérée. Et malgré ces moyens, ce vide était toujours là. À cette époque, je travaillais avec des psychologues et j'ai même essayé de parler avec plusieurs d'entre eux en me disant que la psychologie pouvait m'aider. Finalement, répondre à ces questions, qui j'étais, pourquoi j'étais mal, comment résoudre ce problème. Je pense que beaucoup de personnes se posent ces questions. Bref, j'ai essayé tous ces moyens que la société m'offrait. Ça m'a aidé un temps, mais j'ai remarqué que c'était illusoire parce que je restais toujours aussi mal. Et puis les jours ont passé, j'avais le moral bas, j'avais plus d'intérêt ni au niveau privé ni au niveau professionnel. Et là, ma famille a commencé à s'inquiéter vraiment. Et puis le 2 août 2005, c'était un jour très spécial parce que je suis rentrée du sud de la France. Et là, j'étais mal, je ne suis pas allée travailler, je suis restée chez moi et je sombrais. Et à ce moment-là, j'ai vu la cassette du film Jésus dans la bibliothèque. Et 6 ans après l'avoir reçu, je l'ai déballé, j'ai regardé ce film. À la fin du film, là, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passait. Parce qu'en voyant l'histoire de Jésus qui est mort à la croix pour les péchés des hommes et que par cet acte, on pouvait être pardonné, retrouver cette relation perdue avec Dieu, eh bien j'ai prié Dieu qu'il vienne en moi, qu'il vienne combler ce vide qui était en moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et dès ce moment-là, j'ai reconnu que en fait, je ne méritais rien et que Dieu avait tout fait pour moi et il est entré dans ma vie. Donc à partir de ce moment-là, quelque chose de nouveau a commencé. J'ai quitté mon ancien ami et en le quittant, avant de fermer la porte, j'ai prié Dieu. Je lui ai demandé que je puisse rencontrer un homme avec qui je pourrais lire la Bible et partager ma vie avec lui. Et je suis allée à un rassemblement de jeunes chrétiens et là j'ai rencontré un garçon. Ma prière a été exaucée assez rapidement et plus tard il est devenu mon mari. Entre-temps, j'ai quitté mon travail. Et j'allais commencer un institut biblique, mais avant ça, j'ai encore fait un voyage en Thaïlande, sac au dos avec une amie. Et puis, pendant ce voyage, cette amie m'a dit « Tu sais, je suis au fond du trou. Et alors là, j'ai saisi l'occasion de lui parler de Dieu, de lui montrer en fait que la solution, c'était de le laisser entrer dans notre vie et qu'elle pourrait aller mieux. Alors je me suis inspirée d'une citation qu'a dit Blaise Pascal, un théologien. Il y a dans le cœur de chaque homme un vide en forme de Dieu et nul autre que lui ne peut le combler. Et je me suis inspirée de cette phrase et je l'ai illustrée. Et tu sais, Mildred, un peu comme ces jeux qu'on fait faire aux enfants, il faut rentrer une bonne forme dans le bon trou. Eh bien, je lui ai expliqué que j'avais le cœur vide et que je ne savais pas comment le remplir. Et j'ai pensé à un carré qui représente l'amour. En fait, est-ce que je pourrais vivre un amour fidèle et véritable ? Parce que chacune de mes relations que j'ai vécues était désastreuse et c'était toujours une déception. Et ça n'entrait pas dans mon cœur, dans ce vide que j'avais. Alors j'ai pensé à un rond qui représente le travail. Est-ce qu'il fallait que je trouve un autre travail ? Est-ce qu'il fallait que je me réoriente, faire autre chose ? Et ça n'entrait toujours pas dans mon cœur. Et puis le bien-être en forme d'hexagone. Alors avec les médecines douces, les pratiques orientales, la psychologie, mais malheureusement ces biens étaient pour un temps, mais après je retombais. Un triangle par exemple qui représente le sport, mais ça n'entrait pas dans mon cœur. J'en faisais beaucoup, c'était de l'excès et ça abîmait mon corps plus qu'autre chose. Ou alors ce rectangle qui n'entrait pas dans mon cœur, qui représente les biens matériels. J'avais tout, mais finalement je n'étais pas heureuse. Et quand j'ai pris la forme du cœur et que je l'ai mis dans mon cœur, c'était Dieu. Et là, mon cœur s'est rempli. Enfin, il est devenu le fondement de ma vie, cette base solide que j'avais besoin, en fait. Alors, mon cœur s'est rempli avec Dieu. Et je ne dis pas que l'amour, le travail, le bien-être, le sport ou les biens matériels sont mauvais, loin de là. Mais quand j'ai compris que Dieu était le plus important, il a changé ma vie et il m'a aidé à refixer les bonnes priorités et à remettre les choses à sa juste place. Et lorsque j'ai expliqué ça à mon amie, eh bien après, elle a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et de mon côté, grâce à Dieu, je suis maintenant mariée à Emmanuel. Il est pasteur et nous servons le Seigneur ensemble. Et notre but premier, eh bien, c'est de pouvoir amener des gens à Christ et de voir leur vie transformée.
C'est super, merci beaucoup Mildred d'avoir été
merci beaucoup.
Écouter et enregistrer ce témoignage.
Ça c'est vrai, c'est une belle histoire et j'espère qu'un jour elle pourra venir ici nous raconter encore d'autres étapes de sa vie. C'est une belle expérience.
Merci.
Ouais, Jésus qui est capable de, qui ne reste pas dans le ciel, qui vient à nos côtés, qui lui seul peut remplir nos vies et les transformer dans des schémas ou des raisonnements qui ne sont peut-être pas les nôtres a priori, mais et c'est ce qu'on va découvrir ensemble et que j'aimerais pouvoir partager avec vous aussi dans la continuité de ce témoignage qui était très interpellant. Je vous invite à lire ou à écouter lire un texte qui est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1. Je lirai à partir du verset 26. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots, elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors « N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. » Je continue au chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, une ville de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, là où était né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle destinée aux voyageurs. Ah, la fête de Noël, cette fête presque magique, cette fête qui, mieux que toute, peut nous ramener en enfance. On a fait remonter en nous les odeurs de mandarine, de cannelle, de massepain, tout se met à étinceler de mille feux, tout autour de nous la vie se transforme, Des sons même reviennent à notre mémoire, la bûche qui craque dans la cheminée, le son des clochettes, le bêlement des moutons. Quand on pense à Noël, on est immédiatement plongé dans une ambiance de douceur, c'est la paix, on est serein. Mais dans la réalité de ce qu'ont vécu Joseph et Marie, ce n'était pas du tout la même chose. La réalité, c'est que ça sentait mauvais, l'odeur d'une étable, il faisait froid et sombre, et en lieu et place de la paix et de la sérénité, les deux parents de Jésus vivaient plutôt la nuit de l'angoisse. Ce jour de Noël n'est pas doux, mais bien dur et rugueux. Noël, en fait, c'est un grand paradoxe, parce qu'il y a plus de 2000 ans, il n'y avait pas de place pour Jésus et ses parents, alors qu'aujourd'hui, on voit Jésus partout dans nos crèches de Noël, on l'entend dans les chants et les cantiques qu'on chante pour cette occasion, et le comble du comble, c'est que chaque année, la ville de Bethléem fait fortune grâce à celui qu'elle n'a pas voulu accueillir.
C'est dingue ça.
Étonnant.
La ville de 30 000 habitants accueille près de 2 millions de touristes par an. Et la période de Noël, les hôtels sont complets chaque année.
T'as toujours complet alors.
Les hôtels sont complets. Au cours de l'année, mais à la période de Noël, c'est complet, c'est sûr. Il faut bien se souvenir, il y a 2000 ans, il n'y avait pas de place pour Jésus. Mais du coup, est-ce que Joseph et Marie étaient arrivés trop tard? Quand bien même s'ils étaient arrivés en retard, ok, mais pour une femme qui est sur le point d'accoucher quand même. On se sert, on fait de la place. En plus, il faut se souvenir que Joseph retourne dans son village d'origine. En effet, un peu comme aujourd'hui où sur nos cartes d'identité suisse, on a une ville et un canton d'origine qui traditionnellement devaient assurer l'hospitalité en cas de besoin, Joseph, lui, décide avec sa fiancée de se rendre dans son village d'origine. On imagine tout à fait les gens pouvoir dire « Tiens, voilà Joseph qui revient avec sa jolie fiancée !» Mais attends, elle a le ventre bien rond. Mais elle est enceinte jusqu'aux yeux! En plus, quand on pense qu'en Orient, l'hospitalité est légendaire, il n'y a qu'une seule explication au fait qu'ils se retrouvent dans cette étable. On ne veut pas d'eux. Ils font honte, on ne veut pas d'un bâtard. Oui, parce que Marie, c'est la fiancée enceinte. Avec ces deux mots, on réalise le poids de la situation. Marie est une fille mère. Dieu quand même aurait pu choisir une meilleure situation pour venir dans notre monde. Pourquoi s'incarner dans la situation d'un enfant de scandale, qui sera dès le début rejeté, marginalisé, quelqu'un hors des normes sociales et qui choque l'éthique de l'époque? Du coup, avant même sa naissance, Jésus bouscule. Joseph avait même proposé de rompre secrètement avec Marie, parce que quand même le coup du Saint-Esprit, c'était difficile à avaler, hein. Mais voilà Dieu qui choisit cette situation hors norme, qui se révèle en plus d'abord à une femme. Car c'est bien une femme qui est choisie, c'est elle qui reçoit la visite de l'ange avec cette parole. « N'aie pas peur Marie, tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance de Dieu te couvrira. » Dieu a bien choisi une femme. Dans une société patriarcale, voici encore quelque chose de hors norme. Peut-être pour nous rappeler aussi que nous sommes tous égaux, un peu comme le disait Paul, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, tous enfants de Dieu. Voici peut-être une chose à ne surtout pas oublier en cette période de Noël, l'accueil de tous et le rejet de tout racisme et de toute discrimination. Mais imaginez la situation de Marie, recevant cette parole. L'ange qui lui parle et qui est... Elle a dû se dire, mais comment je vais expliquer ça à Joseph? Comment je vais expliquer ça à ma famille, mes amis, mon entourage? Personne ne va vouloir me croire, on va me prendre pour une folle ou une menteuse. Et puis, elle est où la faveur de Dieu quand on se retrouve mis de côté au fond d'une étable froide et sombre? C'est facile pour nous de considérer ce récit avec le recul de l'histoire, mais je crois que la peur et le doute ont sûrement été des compagnons de Marie dans tous ces moments. Et du coup, sa réponse est d'autant plus belle. Face à tout ce questionnement qu'elle doit avoir dans sa tête, la réponse à l'ange, c'est « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Quel courage, quelle résilience! Je crois que Marie est indéniablement une grande source d'inspiration pour nous. Mais je dois aussi vous avouer, en tant que mari et papa, je suis aussi interpellé par la réaction de Joseph. Parce que là où Noël doit nous pousser à mettre les femmes à l'honneur, cela nous montre aussi un exemple du vécu de couple. Imaginez cette même situation maintenant à la place de Joseph. Son amoureuse est enceinte et il sait qu'il n'y est pour rien. Il n'était pas du tout préparé à ça. Comment réagir? Parce que bon, un mensonge comme le coup du Saint-Esprit, il faut être naïf quand même pour y croire. Et d'ailleurs, une solution existe. dans sa religion, dans sa culture, selon le livre du Deutéronome, Marie mérite tout simplement d'être lapidée. Et puisque le texte nous dit que Joseph est quelqu'un de juste, normalement ça voudrait dire qu'il colle scrupuleusement à la volonté de Dieu, et comme la Bible dit, bah, il faut le faire. Pourtant, Joseph ne va pas suivre ce que la Bible dit sur ce cas. Cela peut-être peut nous dire aussi que la notion même de ce qu'est être juste aux yeux de Dieu n'est pas une obéissance aveugle à la lettre, mais plutôt obéir à l'esprit. C'est bien plus une façon d'être qui d'ailleurs nous est développée dans ce récit. Deux mots, je crois, décrivent la première étape du cheminement de Joseph. Volonté et réflexion. Ce juste mélange entre la dignité et l'humilité. Honneur de celui qui se sent appelé à décider par lui-même et pas prendre un prétexte externe pour décider ou trancher la situation. Et humilité de celui qui prend le temps de tourner la question dans sa tête, dans son cœur, afin de ne pas décider à la légère. Et c'est ainsi qu'au lieu de s'en remettre à l'intransigeance de sa culture et de sa religion, Joseph se met à penser à l'avenir de Marie. Il considère la femme, la personne, et pas seulement juste les faits. Il respecte profondément sa fiancée, même si ce qu'il apprend est choquant et le blesse aussi à l'intérieur. Voilà peut-être ce à quoi aussi nous sommes appelés à vivre dans cette période de Noël. De se lancer sur le chemin du questionnement avant de poser des étiquettes et de porter des jugements hâtifs sur ceux qui nous entourent. À considérer la personne qui est en face de moi. Ce questionnement, cette ouverture aux autres, se prolonge immanquablement par une ouverture à Dieu. Le fait de chercher une solution prédispose Joseph, je le crois, à l'intervention de Dieu. Il faudra certes, c'est vrai, l'intervention d'un ange pour qu'il soit vraiment convaincu de tout ce que Marie lui a dit, mais si l'ange est intervenu, c'est parce qu'il était entré dans cette recherche, cherchant la meilleure issue possible pour lui, pour sa fiancée, sans avoir de suite tranché avec sa faible compréhension des choses. Voilà peut-être ce qu'est être une femme et un homme juste, celle ou celui qui cherche à s'ajuster à la situation, à s'ajuster à l'autre, à s'ajuster au meilleur qu'est Dieu. Marie et Joseph ont fait preuve d'un effort incroyable pour surmonter leur bouillonnement intérieur d'arguments, de sentiments qui devaient être complètement contradictoires, dans une situation aussi atypique que ça. Un effort incroyable pour pouvoir sortir de leur raisonnement limité afin de se rendre disponible à l'intervention de Dieu dans leur vie. Je dois vous avouer que ces deux personnages m'inspirent et je crois qu'ils ont à de quoi nous inspirer en cette période de Noël. Ils ont fait preuve d'une qualité qu'il me semble être indispensable et que je vous souhaite à tous, c'est la folie. Alors attention, hein, pas la folie dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Hein. Pour nous, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de raisonnement, qui est irrationnel. C'est même presque devenu une insulte, mais tu es fou ou quoi ? Pourtant, le plus grand fou de la Bible, c'est Jésus. C'est Jésus qui va être appelé fou même par sa propre famille. Mais il n'était pas fou dans le sens qu'il n'eut pas de raison, mais surtout et principalement parce que son entourage ne comprenait pas ce qu'il faisait. Et je crois que Joseph et Marie ont aussi certainement été pris pour des fous, à croire que la situation qu'ils vivaient était l'œuvre de Dieu. Joseph devait être pris aussi pour un naïf en plus de ça. Mais vous savez, en grec, la langue dans laquelle le Nouveau Testament a été écrit, le terme « fou » peut se traduire par « quelqu'un qui n'a pas de raison », mais il peut également être traduit par « faire sortir quelqu'un de son raisonnement ». Joseph et Marie ont été suffisamment fous pour être capables de sortir de leur raisonnement trop limité afin de pouvoir épouser le raisonnement de Dieu. C'est pourquoi je vous souhaite d'être fous en cette période de Noël, pour ne pas s'arrêter à ce que les personnes, à ce que les faits semblent apparaître à notre esprit, ne pas s'arrêter à ce que notre culture nous impose et au poids de la bien-pensance, mais bien d'entrer dans cette démarche de recherche, de réflexion et de considérer là où les personnes en face de nous. De s'ouvrir au raisonnement de Dieu pour qu'il se révèle à nous. Qu'en cette fête de Noël, nous puissions aussi nous joindre à cette parole de Marie. Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi selon ta parole. Alors soyons fous et joyeux Noël à tous.
Amen, merci. Et oui, Dieu a appelé Marie, elle a été réceptive, elle a accepté de partir à l'aventure folle que lui proposait Dieu. Et ça nous a fait penser, à Brian et moi, à une chanson qui s'appelle « Breath of Heaven », « Souffle du ciel ». Cette chanson parle de Marie qui prie. Dans le premier couplet de cette chanson en anglais, on imagine Marie parler de ses doutes, de ses peurs alors qu'elle est enceinte, qu'elle se demande pourquoi Dieu l'a choisie elle. Dans le deuxième couplet, elle réfléchit au poids du rôle qu'elle a et demande à Dieu de l'accompagner, d'être à ses côtés dans cette aventure. Dans le troisième couplet, elle se dit que Dieu aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Dans un sens, elle a peur même de le décevoir. Mais elle décide de s'offrir entièrement à lui. Elle lui demande de la fortifier, de l'aider à être celle que Dieu veut qu'elle soit, afin que les plans de Dieu puissent se réaliser. Et puis le refrain de ce chant dit « Souffle du ciel ». Tiens-moi, sois éternellement à mes côtés, illumine mon obscurité, remplis-moi de ta sainteté car tu es saint, souffle du ciel.
Cette chanson a été écrite à la base par Chris Eaton et ne parlait pas explicitement de Marie. Quand Amy Grant a entendu cette chanson, elle souhaita l'enregistrer mais en changeant certaines paroles, en prenant le point de vue d'une femme. Elle était enceinte à ce moment-là. Et c'est certainement la raison pour laquelle elle a souhaité imaginer le point de vue de Marie enceinte.
Amy Grant explique que ce chant est une prière, comme un appel lancé à Dieu, pour implorer sa présence et pour lui demander de nous guider. Elle témoigne que lors de certains de ses concerts, elle a parfois eu du mal à chanter la chanson jusqu'au bout, car elle était prise par l'émotion. En regardant son public, elle se rendait compte que c'était des milliers de prières pour chaque histoire, chaque souffrance, que chaque personne de la salle représentait, qui était en train de monter à Dieu.
Et donc nous t'invitons à écouter ce chant. Nous sommes tous confrontés à des défis, des aventures, peut-être enthousiasmantes mais effrayantes, peut-être des souffrances, des choix à faire. Et par ce chant, nous pouvons demander à Dieu son souffle du ciel qui vient en douceur nous envelopper et nous guider.
Chosen. en pensant à Marie, cette jeune femme, dont le ventre a porté ce petit enfant divin, quand elle l'a accompagné dans ses premiers pas, quand elle s'est inquiétée aux 12 ans de Jésus, car elle ne le retrouvait plus, quand elle l'a vu évoluer et commencer son ministère, bref, cette maman. Cela me fait penser à toutes les femmes qui portent un enfant dans leur ventre, aussi toutes ces mamans qui accompagnent leur enfant dans leur chemin de vie, à toutes ces femmes aussi qui voudraient être maman ou qui pour X ou Y raison ne le sont pas ou ne peuvent plus l'être. Et j'aimerais prier pour elles, j'aimerais prier pour toi. Oui Père, je te confie toutes ces femmes qui portent leur bébé en elles. Merci pour ce cadeau précieux. Merci pour la vie. Protège-les, garde-les, bénis-les. Bénis chaque maman dans son rôle, qu'elle puisse être remplie de ta sagesse, de ton amour, de ta patience, de ton humilité, qu'elle puisse trouver en toi le réconfort et la force quand cela devient trop dur. Je te prie également pour ces femmes, cette auditrice qui nous écoute aujourd'hui, qui n'a pas ou ne peut plus avoir d'enfant, et pour qui cela peut être un chagrin, un fardeau, une blessure difficile à surmonter. Que tu puisses panser son cœur, l'entourer de tes bras d'amour, la réconforter et lui ouvrir un chemin, peut-être pas comme elle aurait voulu, mais un chemin d'espérance et de résilience. Et je te prie aussi pour ces mamans qui ont perdu leur enfant. Tu connais le vécu de cette auditrice, son chagrin, ses souvenirs qu'elle garde, ce cheminement, peut-être ses questionnements, ses colères, ses doutes, ses silences assourdissants, ces moments d'errance. Je te la confie, toi, notre papa, qui sait mieux que quiconque ce dont elle a besoin. Qu'elle puisse en cet instant ressentir ton amour immense et qu'elle trouve en ta présence réconfort, force et espoir. Merci, doux Père, toi qui es mère aussi, pour ta présence dans nos vies. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.
Amen. Et ce Joseph, alors ? Alors, comme tu me disais, Pierre-Ric, Joseph a eu un rôle à jouer et même, je dirais, un rôle primordial. On a parlé du fait que Joseph suit les conseils de l'ange et décide de ne pas annuler le mariage alors que sa future femme est enceinte, mais pas de lui. Et dans la foulée, Joseph assume son rôle de mari avec un vrai sens des responsabilités. Dans un premier temps, il se démène à trouver un lieu sécurisé pour que Marie puisse donner naissance à Jésus, cette fameuse crèche que tout le monde connaît. Après la naissance et la visite des mages, Hérode veut tuer tous les nouveau-nés et les enfants de moins de 2 ans. Quelle atrocité! Mais dans ce malheur, et sous les conseils avisés de l'ange du Seigneur, Joseph emmène sa famille se réfugier en Égypte le temps que la situation se calme. Ou encore, quand Jésus a 12 ans et qu'il disparaît dans un groupe de pèlerins. C'est Joseph avec sa femme qui déclenche les recherches pour retrouver leur fils qui se trouve être à la synagogue. Je suis moi-même mari, mais pas encore père. Et en observant ces exemples de plus près, je vois que Joseph n'hésite pas une seconde pour créer un espace sécurisé pour que Marie puisse vivre et accomplir ce plan divin. Ce plan divin qui est d'une certaine façon, comme tu le disais Pierrick, la relation que Dieu voudrait vivre avec chacun de nous. Moi, ça m'interpelle, cette relation que Joseph a eue avec Dieu. Avant toute action de sa part, il tient compte des conseils de Dieu, il écoute et applique ce que l'ange du Seigneur lui dit de faire. Cette réflexion de l'histoire de Joseph me rappelle qu'en tant que mari, mon premier rôle est de soigner ma relation avec Dieu, de vivre mon rôle d'époux comme une pleine collaboration avec lui. Être à l'écoute de ce qu'il a à me dire, d'être pleinement connecté à lui au travers des moyens que l'on peut avoir, comme la prière, la louange, la lecture de la Bible. Cela me permet de ne pas faire mes choix tout seul et de réussir à assumer pleinement mes responsabilités de mari. Puis je me dis que j'ai envie, avec l'aide de Dieu, de créer un espace pour ma famille, pour favoriser la relation que Dieu veut avoir avec ma femme ou mes futurs enfants. Si par exemple ma femme veut s'engager dans un groupe de louange, en tant que mari, moi, je peux l'encourager dans cette démarche, l'aider à libérer son emploi du temps pour qu'elle puisse y aller la semaine, ou peut-être même l'accompagner. Et je vois ce rôle comme être au service, mais pas comme la servitude ou être esclave, mais plutôt comme ce mari qui soutient, ce mari qui accompagne, qui encourage, qui protège, en étant guidée par l'Esprit et par Dieu. Et toi, futur mari, ou mari actuel, futur père ou père actuel, comment vois-tu ce rôle ? Je t'invite, et d'ailleurs je m'y auto-invite aussi, à réfléchir sur ce rôle d'homme, de mari, de père au sein de la famille.
Très beau tout ce que tu as dit, Guillaume. Il est vrai que le rôle de Joseph n'est pas anodin dans cette histoire. Il accepte à 100% la mission que Dieu lui a donnée et il se laisse guider aussi par le Saint-Esprit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Joseph était un homme pacifique, un homme bon et juste, et qu'il a été choisi par Dieu de la même manière que Marie l'a été. Joseph a cru et a accepté immédiatement le message que l'ange Gabriel lui a apporté. On pourrait, en tout cas moi j'ai envie de dire que Joseph a adopté Jésus, il lui a donné son nom de famille, probablement ils avaient un nom de famille, je ne sais pas. Joseph a donné sa tribu à Jésus et avec tout cela, les promesses attendues par la lignée de David. J'ai quand même envie de dire que Joseph était un bon papa. Bon, je ne l'ai pas connu personnellement, mais j'ai l'impression qu'il était un bon papa. Et si je prends ton idée, Brian, ton idée de réflexion sur le rôle de l'homme dans la famille, le rôle du mari et du père. Alors, l'homme, le père de famille, est celui qui conduit ses enfants auprès de Dieu, celui qui conduit sa famille. L'homme fait l'office de prêtre dans le foyer. Et si nous observons nos sociétés actuelles, assez rapidement, nous nous rendrons compte qu'il y a un certain nombre de conflits et de tensions qui entourent les familles et les rapports humains en général. À mon avis, nous avons besoin de pères, de maris et d'hommes qui soient guidés par Dieu afin de bien instruire leur famille dans ce monde parfois si compliqué. Qu'en dites-vous? C'est ça, hein? Alors, face à cela, je pense que prier pour notre société pourrait être une bonne chose. Je pense que ce serait bon de prier et je vous invite à le faire maintenant.
Oui, Seigneur, je veux te remercier de l'occasion qu'on a de pouvoir être ensemble malgré les distances où chacun nous sommes et de pouvoir, grâce aux moyens techniques aussi, vivre ce temps de respiration, ce temps où on se fait du bien, ce temps où on est nourri. Père, j'aimerais aussi te demander de nous aider, de venir à notre aide et de changer le regard que nous portons sur les choses, les situations, les personnes qui sont autour de nous. Aide-nous à pouvoir changer nos lunettes pour pouvoir voir les choses avec ton cœur, comme toi tu les vois, comme toi tu les connais. Aide-nous aussi à te faire confiance que tu connais toutes choses, que tu maîtrises toutes choses et que tu sais aussi ce qui est le mieux pour nous. Parfois nous raisonnons avec nos raisonnements limités, avec notre faible compréhension des choses. Donne-nous cette folie nécessaire pour pouvoir sortir de nos petites boîtes, pour pouvoir essayer de nous ouvrir à toi, de pouvoir nous ouvrir à ton raisonnement, à ton intervention dans nos vies. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, d'autant plus que nous sommes constamment sollicités, nous courons à 100 à l'heure et parfois oublions de nous arrêter. Aide-nous à pouvoir prendre ce temps pour nous laisser interpeller par toi. Aide-nous aussi à nous laisser interpeller par ceux qui sont autour de nous, si nous sommes en couple, que ça soit aussi notre épouse, notre mari, notre enfant aussi. Joseph s'est laissé interpeller par Marie. Marie a su laisser aussi Joseph prendre son rôle et ensemble ils ont marché, ils ont vécu une grande aventure, difficile par moments, mais une grande aventure grâce à toi. Aide-nous à pouvoir vivre aussi une grande aventure avec toi et être conscient que tu es avec nous chaque jour dans tout ce que nous vivons. Continue de nous accompagner, c'est ma prière. Amen.
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 Amen. Alors pour l'action de la semaine, Pierrick nous a invités dans sa réflexion à réfléchir notamment à la notion d'être appelé par Dieu, un peu sortir de notre réflexion humaine, s'ouvrir à la folie qu'on peut dire, parfois la folie de Dieu, et se laisser surprendre par Dieu. Parce que Dieu peut nous faire faire, parce qu'il peut nous inviter à être, et donc à être à l'écoute de Dieu. Eh bien, c'est ce que je nous invite à vivre cette semaine. Tu pourrais prendre un moment cette semaine pour t'isoler dans un endroit où tu te sens bien, une pièce de ta maison, un lieu à l'extérieur, et tu pourrais prendre un temps de discussion avec Dieu. Si tu as envie de vivre une relation avec Dieu, de lui dire que tu aimerais le servir, que tu aimerais qu'il soit au centre de tes réflexions, que tu as envie qu'il te guide, que tu as envie de lui laisser de la place pour qu'il puisse agir. Et peut-être même qu'au fond de toi, tu ressens déjà un appel de Dieu, un appel qui te déstabilise ou te fait un peu peur ou tu ne sais pas trop. Et je t'invite à en parler avec Dieu, ouvertement, à lui demander son esprit pour qu'il te guide. Et puis peut-être qu'autour de toi, tu as une personne qui a un appel spécial de Dieu. Tu le vois parce que cette personne a des dons particuliers, parce qu'elle a des occasions qui s'offrent à elle de vivre une aventure qui est bonne, positive. Peut-être que cette personne, elle hésite à se lancer dans cette aventure, qu'elle a peur, que c'est compliqué. Et je t'invite à demander à Dieu de t'inspirer pour que si Dieu veut, il puisse t'utiliser pour encourager, rassurer cette personne, que Dieu te donne les bons mots, les bons gestes. Voilà pour la double action de la semaine.
Ah, merci, merci beaucoup. Merci. Je vais essayer de mettre tes défis en pratique, Amandine. On va voir.
On échangera dessus.
Le temps passe très vite et voilà que nous devons déjà nous quitter. Le temps passe, n'est-ce pas? Chers auditeurs, je te remercie pour ton écoute. Un grand merci aussi à toute l'équipe ici présente.
Merci à toi.
Merci à toi.
Merci.
N'oublie pas, Dieu a des projets de bonheur pour toi. Et il a hâte de les réaliser dans ta vie. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt.
À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.